Chapitre 52. Besoin. Un moment, Ninevé se tint dans le cœur de la pierre, sans voir ce qu'il y avait autour d'elle, ni penser au monde des rêves. Egeanin était une Séanchanienne. Un membre du maudit peuple qui avait mis un collier autour du cou des Gwen et tentait de faire de même avec elle. Cette seule idée dévastait l'ancienne sage-dame. Une Séanchanienne avait réussi à gagner son amitié. Trouver de vrais amis avait été si difficile depuis le départ de Shandemond. Et là, croire en avoir trouvé une et la perdre de cette façon.
« C'est pour ça que je la hais, pas pour tout le reste !»
Furieuse, Ninevé croisa les bras.
« Elle m'a incité à la trouver sympathique. Je ne peux pas revenir en arrière. Ça me donne envie de la gifler. »
Dites à haute voix, des choses pareilles n'avaient aucun sens.
« Et alors, je suis obligé d'être logique ? Moi, une future Aes Sedai ?»
Avoir droit aux contradictions, certes. Mais être capricieuse comme une gamine ? Au centre de la salle entourée de colonnes et éclairée par une lumière qui semblait venir de nulle part, Kalandor étincelait. Dans une telle atmosphère, il était facile de se sentir épié. À supposer que ce soit seulement un tour de son imagination. Entre les colonnes, n'importe qui pouvait se cacher. Un solide bâton se matérialisa entre les mains de Ninevé tandis qu'elle sondait les fameuses colonnes. Où était Egwen ? Faire attendre les gens, c'était bien d'elle, ça. Et si un monstre se préparait à sortir de la pénombre, résolu à
« Une bien étrange robe, Ninevé !»
Ravalant un cri de surprise, l'ancienne sage-dame se retourna dans un cliquetis de métal qu'elle ne remarqua d'abord pas. De l'autre côté de Kalandor, Egwen se tenait aux côtés de deux femmes en jupe ample et en chemisier blanc. Un châle sombre reposait sur leurs épaules et leurs cheveux blancs, tenus par un foulard, cascadaient jusqu'à leur taille. Le souffle court, lui faire peur comme ça. Ninevé se força à respirer normalement. Avec un peu de chance, ses interlocutrices n'auraient rien remarqué. Grâce à la description d'Elaine, elle reconnut une des Aiel. Amis. Pour ses cheveux blancs, elle avait l'air bien trop jeune. Mais ils étaient déjà argentés quand elle était enfant, avait-elle confié à la fille héritière. L'autre matriarche, mince au point de paraître maigre, avait le visage ridé. Ce devait être Beyr. Oui, les yeux bleus correspondaient. La plus dure des deux, estima Ninevé, maintenant qu'elle les avait devant les yeux. Encore qu'Amis n'avait sûrement rien d'un agneau. Une robe étrange et des cliquetis métalliques. Baissant les yeux sur son torse, Ninevé poussa un petit cri stupéfait. Sa robe ressemblait aux tenues à la mode à Shandemond, en imaginant que les femmes de Deux Rivières portaient des vêtements de maille renforcés par des pièces d'armure telles qu'elle en avait vues au Chiennard. Ainsi accoutrés, comment les hommes pouvaient-ils courir ou sauter en selle? Tout ça pesait bien 100 livres, tirant sur ses épaules. Logiquement, son bâton s'était transformé en une masse d'armes hérissée de piques, et sans même toucher sa tête, elle devina qu'elle portait un casque. Rouge comme une pivoine, elle se concentra pour se doter d'une robe de laine classique et brandir un simple bâton de marche. Du coup, elle n'eut plus qu'une natte à la place de ses deux tresses, et cette sensation lui fit un bien fou.
« Quand on marche dans un rêve, »
dit Beyr d'un filet de voix.
« Ne pas contrôler ses pensées peut être embarrassant. Si tu veux continuer à arpenter tel Aran Riyod, il faudra remédier à ce défaut. »«
Je contrôle très bien mes pensées, merci, »
siffla Ninevé.
Mais
la voix de Beyr n'aurait pas dû être si faible. Les deux matriarches semblaient faites de brume et Egwen, en robe d'équitation bleue, paraissait presque transparente.
« Que vous arrive-t-il ? Pourquoi êtes-vous si vaporeuse ? Essaie d'entrer dans le monde des rêves en somnolant sur une selle. »
lança Egwen. Elle scintilla.
« Dans la tierce terre, c'est le matin. Et nous nous sommes déjà mis en route. Craignant que tu t'inquiètes, j'ai dû convaincre Amis de me laisser venir ici. »
« Sans même parler du cheval, »
intervint Amis.
« Il est difficile de dormir d'un œil alors qu'on voudrait être bien réveillé. Et Gwen n'a pas encore appris le coup. »«
Oui, mais ça viendra !»
s'écria la jeune femme. Quand il s'agissait d'apprendre, elle confondait souvent vitesse et précipitation. Si ses matriarches ne la retenaient pas par la peau du cou, elle foncerait sûrement tête baissée vers une impressionnante série de problèmes. Ninevé oublia tout ça quand sa jeune amie commença à évoquer l'attaque des Trollocs et des Drakkar contre les Rocs Froids. Séana, une matriarche capable de marcher dans les rêves, figurait au nombre des victimes. Du coup, jetant aux orties toutes les coutumes, Rand conduisait les Aiel Ta'ardad en direction d'Al-Kaïrdal. et il avait envoyé des messagers un peu partout pour ameuter tous les autres clans de la tribu. Le fichu garçon n'en faisait qu'à sa tête. Les Aiel étaient nerveux, et Moiraine aurait volontiers tout cassé pour se défouler un peu. Cette nouvelle aurait ravi Ninevé, de tout temps agacée par l'influence de l'Aes Sedai sur Rand, si Egwene n'avait pas eu l'air si inquiète.
« Je ne saurais dire si Rand est fou ou s'il a un plan, »
conclut Egwene.
« Si j'avais la réponse à cette question, tout serait plus facile pour moi, quelle qu'elle soit. Tu vois où j'en suis ? Ninevé, ce ne sont pas les prophéties, ni Tarmon Gaidon, qui me minent en permanence. C'est peut-être idiot, mais j'ai promis à Elaine de veiller sur Rand, et je ne sais pas comment m'y prendre. »
Ninevé contourna l'épée de cristal pour aller enlacer son amie. Même si elle avait l'air d'un reflet dans un mauvais miroir, Egwene était solide au toucher. La santé mentale de Rand. À ce sujet, l'ancienne sage-dame ne pouvait rien dire ni faire. Egwene était près de lui, et ce fardeau lui revenait.
« Tout ce que tu peux faire pour Elaine, c'est dire à Rand de lire ce qu'elle lui a écrit. Souvent, elle s'inquiète sur ce point, comme si elle avait peur d'en avoir trop dit. Si Rand la croit follement amoureuse de lui, il éprouvera sans doute les mêmes sentiments, et ça ne peut pas faire de mal à notre ami. Tu me suis ? Ici, nous avons quelques bonnes nouvelles. »
Quand Ninevé eut tout raconté, Egwene sembla avoir quelque peine à voir en quoi ces nouvelles étaient bonnes.
« Bref, vous ne savez toujours pas ce que cherchent les sœurs noires. Et même si vous le découvrez, elles ont 10 longueurs d'avance sur vous. Oui, mais je ne les laisserai pas remporter la course. »
Ninevé soutint bravement le regard des deux matriarches. D'après ce qu'Elaine lui avait dit sur Amys, quelqu'un qui donnait des avertissements à l'appel et presque rien d'autre, elle allait devoir faire montre de fermeté avec ses aïeuls, présentement si vaporeuses qu'un souffle de vent aurait pu les dissiper comme des brouillards.
« Elaine pense que vous connaissez beaucoup de choses sur les rêves. Puis-je m'introduire dans ceux d'Amaterra pour découvrir si elle est un suppôt des ténèbres ?»«
Gamine stupide !»
lâcha Beir.
« Une Aes Sedai, certes, mais toujours une sale gosse. S'introduire dans le rêve de quelqu'un est très dangereux. Sauf si on est invité et attendu. Ce sont ses songes. Pas comme ici. La Panarche les contrôle totalement, et tu serais soumise à sa volonté. »
Ninevé aurait pourtant juré que c'était la solution. Une déception de plus.
Gamine stupide ? Je ne suis pas une gamine !
D'instinct, Ninevé aurait voulu tirer sur sa natte, mais elle s'en abstint. Pour une raison inconnue, ce tic la mettait mal à l'aise ces derniers temps.
J'étais la sage dame de Champ des Mondes avant de devenir une Aes Sedai.
Désormais, elle proférait ce mensonge quasiment sans hésiter.
Et j'ordonnais à des femmes de votre âge de s'asseoir, de se taire et de m'écouter. Si vous savez comment m'aider, dites-le, au lieu de m'accabler d'absurdes conseils. Je sais reconnaître le danger quand je le rencontre. »
Brusquement, Ninevé s'avisa que sa natte s'était de nouveau divisée en deux tresses, ornées de rubans rouges à pompons pour ne rien arranger. Sa jupe était devenue si courte qu'elle dévoilait ses genoux, elle portait un chemisier blanc comme les matriarches, et ses chaussures, comme ses bas, s'étaient volatilisées. D'où venait cet accoutrement ? Elle n'avait jamais eu l'idée de porter une tenue pareille. Egwene plaqua une main devant sa bouche. Pour cacher sa surprise ? Car enfin, elle n'aurait pas ri d'une amie.
« Les idées qu'on ne contrôle pas, »
dit Amys,
« peuvent être très embarrassantes, Ninevé Sedai, jusqu'à ce qu'on ait appris. »
Malgré son ton neutre, la matriarche semblait avoir du mal à réprimer un sourire. Ninevé se força à rester impassible. Ces femmes ne pouvaient avoir aucun rapport avec ça, pas vrai ? Résolue à changer de tenue, l'ancienne sage-dame dut lutter, comme si quelqu'un voulait bel et bien l'en empêcher. Folle de colère, elle s'empourpra jusqu'aux oreilles. Au moment où elle allait renoncer, prête à demander un conseil, voire de l'aide, ses vêtements et ses cheveux redevinrent comme avant. Ravie, Ninevé fit bouger ses orteils dans une paire de solides chaussures. Bien, elle avait eu une pensée vagabonde, rien de plus. Et même si ce n'était pas ça, hors de question d'en parler. Les deux aïeuls semblaient bien trop amusés, et même Egwene avait du mal à ne pas éclater de rire.
« Je ne suis pas là pour un ridicule bras de fer. Ce serait leur faire trop d'honneur. » Si je ne peux pas m'introduire dans les rêves d'Amaterra, puis-je l'attirer dans le monde des rêves ? Il faut que je lui parle.
Si nous savions comment faire,
dit Amys en tirant rageusement sur son châle,
nous ne te l'enseignerions pas. Ce que tu demandes est très mal, Ninevé Sedai. Elle serait aussi vulnérable ici que toi dans ses rêves,
dit Beir, glacial.
Depuis le début, tous ceux qui marchent dans les rêves sont d'accord sur un point. Personne ne doit jamais être attiré dans Tel Aranriod. On murmure que c'était une des plus viles méthodes des ténèbres vers la fin de l'âge des légendes.
Ninevé sauta nerveusement d'un pied sur l'autre. S'avisant qu'elle avait toujours un bras autour de la taille d'Egwene, elle cessa immédiatement de s'agiter. son ami ne devait surtout pas sentir que les matriarches parvenaient à la déstabiliser. D'autant plus que c'était faux. Avant de devenir sage-dame, elle avait toujours eu une sainte terreur d'être convoquée devant le cercle des femmes. Eh bien, c'était une épreuve beaucoup plus terrible que se tenir devant ces matriarches. La fermeté était la clé. La fermeté, oui. Les aïels la dévisageaient. Même à moitié floue, ces deux femmes n'avaient rien à envier à Siwan Sanche sur le plan du regard qui tue. En particulier Beir. Par bonheur, il en fallait plus pour intimider Nineveh, mais elle estima prudent de ne plus envenimer les choses.
« Elaine et moi, nous avons besoin d'aide. L'âge noir tourne autour de quelque chose qui peut nuire à Rand. Si les sœurs noires trouvent avant nous cette arme, elles risquent de contrôler le dragon réincarné. Alors, si vous pouvez dire ou faire quelque chose pour nous aider... »«
Aes Sedai, »
dit Amys.
« Avec toi, une demande d'assistance sonne comme une exigence. »
Nineveh fit la grimace. Une exigence ? Enfin, elle s'était montrée quasiment suppliante. Une exigence. Vraiment. Mais les Aiel ne remarquèrent pas la réaction de Nineveh, ou elles choisirent de l'ignorer.
« Cela dit, une menace contre Randaltor. Nous ne pouvons laisser une telle arme aux ténèbres. Il y a un moyen d'empêcher ça. C'est trop dangereux !»
intervint Beir.
« Cette jeune femme en sait encore moins long qu'Egwene quand elle est venue à nous. C'est trop risqué pour elle. Dans ce cas, je pourrais... »
commença Egwene. Les deux Aiel lui coupèrent la parole.
« Tu dois achever ta formation, »
dit Beir.
« Aller au-delà de tes limites finira par te perdre. Tu n'es pas à Tanchico, »
déclara Amys en même temps que sa compagne.
« Tu ne connais pas les lieux et tu ne peux pas éprouver le même besoin que Nineveh. C'est elle la chasseuse. »
Sous ce feu croisé, Egwene capitula sans combattre. Les deux matriarches s'affrontèrent du regard. Au bout d'un moment, Beir leva son châle pour se cacher le visage. Une façon de signifier qu'elle ne dirait plus rien sur le sujet et s'en lavait les mains.
« C'est dangereux, »
confirma Amys. À entendre les deux aïels, respirer était terriblement risqué dans le monde des rêves.
« Je... »
Nineveh se tut, pétrifiée par le regard d'Amys devenu encore plus dur, un exploit qui, à première vue, aurait semblé impossible. Conservant dans sa tête une image très précise des vêtements qu'elle voulait porter, bien sûr, ça n'avait aucun rapport avec le reste, mais ça lui semblait très important, Nineveh reformula ce qu'elle voulait dire.
« Je serai prudente. »« Ça, je n'y crois pas, »
fit Amys.
« Mais je ne vois pas d'autre solution. La clé, c'est le besoin. Quand il y a trop de monde dans une forteresse, le clan doit se diviser et le besoin vital, c'est qu'il y ait de l'eau dans la nouvelle forteresse. Quand on ne sait pas où en trouver, il arrive qu'on fasse appel à une matriarche. Le besoin, dans cet exemple, est de trouver un canyon pas trop éloigné du premier et doté d'un point d'eau. En se concentrant sur le besoin, on approche de ce qu'on désire. Et en se concentrant encore, on s'en approche davantage. Chaque pas vous conduit vers l'objectif, jusqu'à ce qu'on soit non seulement dans un canyon, mais à côté du point d'eau ou de l'endroit requis pour forer un puits. Nineveh, ce sera plus difficile pour toi, parce que tu ne sais pas exactement ce que tu cherches. Mais l'intensité du besoin compensera peut-être ce désavantage. De plus, tu as quand même une idée de l'endroit où il te faudra chercher. Ce palais que tu évoquais. Mais il y a un risque, et tu dois en être informé. »
La matriarche se pencha en avant, son regard perçant rivé dans celui de Nineveh.
« Chaque pas se fait avec les yeux fermés, à l'aveuglette. Impossible de savoir où tu seras quand tu les rouvriras. N'oublie pas, trouver le point d'eau ne sert à rien s'il est dans un nid de vipères. L'écrou d'un serpent venimeux tue aussi rapidement ici que dans le monde réel. Et les femmes dont nous a parlé Egwene semblent encore plus redoutables que des reptiles.
« Je l'ai fait !»
s'exclama Egwene. Les deux aïels la foudroyèrent du regard et Nineveh la sentit frémir.
« Avant de vous connaître !»
précisa Egwene.
« Nous n'étions pas encore à Théar. »
Le besoin. Maintenant qu'elle lui avait fourni quelque chose d'utile, Nineveh se sentait beaucoup mieux disposée envers les matriarches.
« Vous devrez veiller sur Egwene, »
dit-elle, serrant son amie contre elle pour montrer que ce n'était pas des paroles en l'air.
« Beir, tu as raison. Elle essaie toujours d'en faire un peu trop. Elle est comme ça depuis toujours. »
Curieusement, Beir fonça les sourcils à l'intention de l'ancienne sage-dame.
« Je ne trouve pas, »
dit Amys.
« Désormais, elle est une élève docile. Pas vrai, Gwen ?»
La jeune femme eut une moue volontaire. Pour penser qu'une femme de Deux-Rivières pouvait accepter qu'on la qualifie de docile, il fallait bien mal la connaître. Pourtant, à la grande surprise de Nineveh, son amie ne dit rien. À l'évidence, les matriarches étaient aussi peu commodes que les Aes Sedai. Consciente que son heure était presque écoulée, Ninevé décida de brusquer un peu les choses. Si Elaine la réveillait, il risquait de lui falloir des heures avant de se rendormir.
« Dans 7 jours, »
dit-elle.
« Une de nous deux vous retrouvera ici. »
Egwene acquiesça.
« Dans 7 jours, Rand se sera présenté à presque tous les chefs de tribu et de clan, et les Aiels seront tous derrière celui qui vient avec l'aube. »
Les matriarches sillèrent toutes les deux, et Amys tira sur son châle, mais Egwene ne s'en aperçut pas.
« La lumière seule sait ce que Rand voudra faire à ce moment-là, »
conclut-elle.
« Dans 7 jours, »
enchaîna Ninevé.
« Nous aurons pris à Liandrin ce que ses complices et elle cherchent avec tant d'acharnement. »
Un vœu pieux. Plus vraisemblablement, l'âge à noir détiendrait l'arme mystérieuse. Repensant à leur réaction, Ninevé en déduisit que les matriarches n'étaient pas certaines de voir tous les Aiels se rallier à Rand. Et Gwen doutant de son côté des intentions du jeune homme, personne dans cette affaire n'avait l'ombre d'une certitude. Mais il aurait été inutilement cruel d'ajouter encore du poids au fardeau des Gwen en évoquant tout ce qui, à Tanchico, était également loin d'être gagné.
« Au moment du prochain rendez-vous, »
assura donc Ninevé.
« Nous aurons capturé toutes ces femmes, et elles seront en route pour la Tour Blanche afin d'être jugées. S'il le faut, nous les mettrons dans des sacs, comme on le fait pour les oies. »« Ninevé, »
souffla Egwene.
« Essaie d'être prudente. Je sais que ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire, mais essaie quand même. Et fais part de ce conseil à Elaine. Elle est moins téméraire que toi, mais pas tant que ça, tout compte fait. »
Amys et Beyr posèrent chacune une main sur l'épaule d'Egwene. En un clin d'œil, Ninevé se retrouva seule dans le cœur de la pierre. Essayez d'être prudente. Stupide enfant. La prudence était le premier souci de Ninevé. Et pourquoi Egwene avait-elle eu cette hésitation sur le mot « téméraire » Aurait-elle voulu dire autre chose? Au lieu de tirer sur sa natte, Ninevé croisa les bras. Plus que probablement, il valait mieux qu'elle ne sache pas ce qu'avait failli dire la jeune femme. Soudain, elle s'avisa qu'elle avait oublié de mentionner Egeanin. Au fond, c'était peut-être mieux, parce que ça aurait réveillé chez Egwene de douloureux souvenirs. Des semaines après avoir été libérée, la pauvre petite faisait encore des cauchemars d'où elle émergeait en criant qu'elle ne voulait pas être enchaînée. Mieux valait enterrer tout ça. D'autant plus qu'Egwene ne rencontrerait sûrement jamais la Seanchanienne.
Que la lumière brûle, cette garce! Je ne me sers pas intelligemment de mon temps!
Dit Ninevé à voix haute. Le son se répercuta parmi les colonnes rouges. En l'absence des autres femmes, cette forêt de pierre semblait encore moins engageante qu'avant, comme si le risque qu'un monstre en jaillisse était plus élevé. Bref, il était temps de ficher le camp d'ici. Avant de partir, Ninevé se dota de nouveau de 2 tresses et se vêtit d'une robe de soie verte. Alors qu'un voile apparaissait sur son nez et sa bouche, elle ajouta des perles de jade vert dans ses cheveux. La métamorphose lui déplaisait profondément, mais elle était indispensable. Si une sœur noire utilisait un des terangréals volés pour s'introduire dans le monde des rêves, plus précisément dans la version onirique du palais de la Panarche, elle penserait en la voyant avoir affaire à une tarabonaise conduite dans ce lieu par un songe ordinaire. Cela dit, certaines de ces femmes connaissaient l'ancienne sage-dame de vue. Saisissant une de ses tresses, elle s'aperçut avec satisfaction qu'elle était désormais blonde comme les blés.
« Ça, je n'aurais pas cru que c'était possible. Je me demande à quoi je ressemble. Peut-on encore me reconnaître ?»
Un miroir en pied se matérialisa soudain à côté de Kalendor. Voyant son reflet, Ninevé écarquilla les yeux. Elle avait pris l'apparence de Rendra. Alors que son ancienne image revenait sous la nouvelle, elle décida d'usurper, pour un temps, l'identité de l'aubergiste. Une couverture parfaite, non? Et dire qu'Egwene la croyait incapable de prudence. Ninevé ferma les yeux et se concentra sur Tanchico. Le palais de la Panarche. Une arme mystérieuse. Le besoin. Protéger le dragon réincarné. Autour de la jeune femme, les contours de Tel Aran Riod se brouillèrent. Se sentant glisser, elle attendit un peu, puis rouvrit les yeux pour découvrir ce qu'elle avait trouvé. Elle était dans une chambre à coucher aussi grande que les 6 proposées par les 3 pruniers. Des frises décoraient les murs de plâtre blanc et des lampes dorées pendaient au plafond. Les montants sculptés du lit représentaient des branches lestées de feuilles et de fleurs. Sur le lit, une femme encore loin de l'âge mûr était allongée contre l'un des montants, le dos bien droit. Dotée d'une bouche en cœur, comme l'actuelle incarnation de Ninevé, c'était une très jolie personne. Sur le sommet de son crâne reposait une couronne de feuilles de trèfle en or rehaussée de rubis, de perles et d'une pierre de lune plus grosse qu'un 9 doigts. Sur les épaules, la belle aux cheveux noirs tressés portait une large étole, brodée de représentations d'arbres sur toute sa longueur. À part ces 2 accessoires, en guise de vêtements, la femme arborait un très fin film de sueur sur sa peau délicate. Son regard voilé était rivé sur la femme allongée voluptueusement sur un sofa, le dos tourné à Nineveh. Aussi vaporeuse qu'est Gwen un peu plus tôt, cette inconnue, petite et mince, aux cheveux noirs détachés, portait une tenue de soie, chemisier et jupe plissée, qui ne correspondait en rien aux standards locaux de la mode. Sans avoir besoin de le voir, Nineveh devina que le visage pointu de cette femme, une caractéristique qui lui donnait un faux air de renard, était dominé par de grands yeux bleus. Et même si les liens d'air qui retenaient la panarche au montant étaient invisibles pour elle, tant qu'elle ne serait pas furieuse, l'ancienne sage-dame n'eut pas besoin de plus d'indices pour conclure qu'elle regardait le dos de Temael Kinderod.
« Tu apprends tant de choses quand tu utilises tes rêves au lieu de gaspiller ton sommeil. »
acheva de dire Temael avec son accent du Kéirienne, encore plus net quand elle parlait en riant.
« Tu ne t'amuses pas ? Quelle chanson veux-tu que je t'enseigne ? Oui, je sais. J'ai aimé plus de 1000 marins. »
Elle brandit un index menaçant.
« Mais efforce-toi de mémoriser toutes les paroles, Amaterra. Tu sais que je n'aimerais pas devoir. Que regardes-tu comme ça ?»
Nineveh s'avisa que la prisonnière, Amaterra, la panarche, la regardait. Paresseusement, Temael commença à tourner la tête. Nineveh ferma les yeux. Le besoin. Il y eut un nouveau glissement. Essoufflée comme si elle venait de courir sur 10 lieues, Nineveh s'adossa à une étroite colonne sans même se demander où elle était. Son cœur battait si fort qu'on devait sûrement l'entendre à des lieues à la ronde. Se retrouver dans un nid de vipères ? Eh bien, avec Temael Kinderod, on n'en était pas loin. Selon une autre sœur noire, Amiko, Temael adorait faire souffrir les gens au point que même ses complices la redoutaient. Incapable de canaliser, Nineveh aurait pu finir attachée à un autre montant du lit d'Amaterra. Une perspective qui lui valut des frissons glacés.
« Du calme. Tu n'y es plus dans cette chambre. Et même si Temael t'a vu, elle te prendra pour une tarabonesse blonde égarée dans le monde des rêves. »
Le contact, si contact il y avait eu, ne pouvait pas avoir été assez long pour que Temael ait senti que cette tarabonesse était capable de canaliser le pouvoir. Car même quand Nineveh n'avait pas accès au Saïdar, une Aes Sedai pouvait sentir qu'elle en avait les moyens. Mais il fallait que la rencontre dure un peu. Plus de quelques secondes en tout cas. Grâce à un risque calculé, Nineveh savait désormais qu'Amaterra n'était pas l'allié de Temael. La méthode indiquée par Amis se révélait déjà payante. Mais il faudrait aller encore plus loin. Après avoir un peu régulé sa respiration, Nineveh regarda autour d'elle. De fines colonnes blanches se dressaient sur tout le périmètre d'une grande salle presque aussi large que longue. Attachée à des poteaux de bois sombre poli, une corde de soie blanche délimitait un espace interdit aux visiteurs, s'interrompant uniquement pour ne pas bloquer les issues. Des vitrines et des étagères s'alignaient contre les murs, parfois séparés par des squelettes de bêtes fabuleuses, eux aussi protégés par une corde de sécurité. Se rappelant la description d'Elaine, Nineveh reconnut la salle d'exposition principale du palais. L'arme qu'elle cherchait pouvait tout à fait s'y trouver. Du coup, son prochain pas serait beaucoup moins dangereux que le premier, car il ne pouvait pas y avoir de vipère, ou une Temael, ici. Une jolie femme apparut soudain à côté d'une vitrine aux 4 pieds sculptés qui reposait au milieu du sol, pas contre un mur. Ses longs cheveux noirs cascadant sur ses épaules, l'inconnue n'était pas du Tarabone. Mais ce ne fut pas ce détail qui coupa le souffle de Nineveh. La robe de l'apparition semblait faite de brume. Parfois argentée et opaque, elle devenait en un clin d'œil grise et assez fine pour dévoiler très clairement le corps de sa propriétaire. D'où qu'elle vienne, ou plutôt d'où qu'elle se soit projetée en rêve, la beauté brune devait avoir une imagination foisonnante pour s'être dotée d'une telle tenue. Selon toute vraisemblance, les robes provocantes qui faisaient fureur en Arad-Doman n'arrivaient pas à la cheville de celle-là en matière d'attentat à la pudeur. La femme sourit devant la vitrine, puis elle continua son chemin avant de s'arrêter au bout de la salle pour observer quelque chose. Un objet sombre exposé sur un piédestal de pierre blanc crut voir Nineveh. Troublée, elle se força à lâcher ses tresses blondes. L'intruse n'allait pas tarder à disparaître. En règle générale, les rêveurs ne restaient jamais très longtemps dans Tel Aharon-Riod. Et si celle-là avait vu Nineveh, ça n'avait aucune importance, car elle ne correspondait à aucune sœur noire décrite sur la liste. Pourtant, elle semblait quelque peu... Nineveh s'avisa qu'elle avait repris en main ses tresses. La femme. Comme si elle était animée d'une volonté propre, sa main tira très fort sur les tresses. Baissant les yeux, l'ancienne sage-dame vit que ses phalanges étaient blanches et qu'elle tremblait. Comme si pensée à cet inconnu, sa main tenta de nouveau de lui arracher le cuir chevelu.
« Pourquoi, au nom de la lumière ?»
La femme vêtue de brume se tenait toujours devant le piédestal blanc. Remontant le long de son bras, les tremblements se transmirent à l'épaule de Nineveh. Elle n'avait jamais vu cette brune, et pourtant, Tentant de forcer son poing à s'ouvrir, elle réussit simplement à le faire serrer plus fort les tresses. Non, elle n'avait jamais. Tremblant maintenant de la tête aux pieds, Ninevé enroula son bras libre autour de son torse. Elle n'avait jamais. Encore un peu, et elle allait claquer des dents. La femme semblait. Pourquoi cette envie de pleurer ? La femme. Des images explosèrent dans la tête de Ninevé. Comme si l'onde de choc la déséquilibrait, elle se retint à la colonne à côté d'elle. Tout lui revenait. La chambre des floraisons fanées. Une femme très belle, cette femme, enveloppée par l'aura du Saïdar. Babillant comme des gamines, Elaine et elle s'étaient disputées pour être la première à répondre à ses questions. Et à tout lui dire. Vraiment tout ? Les détails étaient obscurs. Mais Ninevé se souvenait vaguement d'avoir gardé certaines choses secrètes. Ou plutôt de les avoir omises. Parce qu'elle conservait encore un peu de raison ? Sûrement pas, hélas. Non. Pressé de répondre à la question suivante, il lui était arrivé de ne pas développer suffisamment un point ou un autre. Par servilité.
C'est insensé. S'il s'agit d'une sœur noire que nous ne connaissons pas, pourquoi ne nous a-t-elle pas livrée à Liandrine ? Nous l'aurions suivie comme deux gentilles petites brebis.
Submergée par une rage froide, Ninevé n'écouta pas la voix de la logique. Une sœur noire l'avait manipulée comme un pantin, puis elle lui avait ordonné de tout oublier. Et elle avait obéi. Eh bien, aujourd'hui, cette femme allait voir de quel bois elle se chauffait quand on ne la privait pas de tous ses moyens. Avant qu'elle ait pu s'unir à la source authentique, Birgit se matérialisa à côté de la colonne la plus proche. Comme la fois précédente, elle portait une courte veste blanche et un pantalon jaune large resserré aux chevilles. Birgit, ou une femme qui rêvait être l'héroïne de légende, allant jusqu'à adopter la même natte de cheveux blonds que son modèle. Un index plaqué sur les lèvres, Birgit tendit un bras vers Ninevé, puis, ses yeux bleus insistants, elle désigna une des doubles arches de la salle et disparut. Qui que soit cette femme, Ninevé n'avait pas de temps à perdre. Enfin unie au Saïdar, elle se tourna vers sa cible, un juste courroux l'autorisant à canaliser le pouvoir avec une rare puissance. Hélas, la femme vêtue de brume n'était plus nulle part en vue, volatilisée, parce qu'une idiote aux cheveux d'or était venue la distraire. Au moins, cette enquiquineuse était peut-être encore là. Le pouvoir vibrant en elle, Ninevé franchit l'issue que lui avait désignée la fâcheuse. La femme attendait dans un couloir où des lampes éteintes exhalaient encore une bonne odeur d'huile parfumée. Un arc d'argent au poing, l'étrange apparition portait à présent un carquois à la ceinture.
« Qui es-tu ? »
demanda Ninevé, folle de rage. Après avoir laissé à cette femme une chance de s'expliquer, elle allait lui donner une leçon qu'elle ne risquait pas d'oublier un jour.
« Es-tu la folle qui m'a tiré dessus dans le désert des Aghels et qui prétendait être Birgit ? Cette fois, quand tu m'as dérangé, j'étais sur le point d'apprendre les bonnes manières à une sœur noire.
Je suis Birgit, »
dit la femme en s'appuyant à son arc.
« Ce nom-là, au moins, te dira quelque chose. Quant à donner une leçon, c'est toi qui risquerais d'en recevoir une, comme dans la tierce terre. Je me souviens des vies que j'ai vécues comme on se rappelle les livres qu'on a lus. Le plus lointain est bien moins précis dans la mémoire que le plus récent. Mais je n'ai rien oublié des moments où je combattais aux côtés de Lousterine. Le visage de Mogedienne sera à jamais gravé dans ma mémoire, comme celui d'Asmodéane, l'homme que tu as failli déranger, Ruidéane. »
Asmodéane ? Mogedienne ? La femme était une rejetée ? Il y avait une rejetée à Tanchico ? Et un rejeté à Ruidéane ? Si elle l'avait su, Egwene en aurait sûrement parlé. Hélas, pas moyen de la prévenir avant une semaine. La colère, et donc le Saïdar, fit bouillir le sang de Ninevé.
Que fais-tu ici ? Je sais que vous vous êtes tous volatilisés après que le corps de Valère vous eut appelé, mais vous êtes...
Ninevé s'interrompit, un peu agacée à cause de ce qu'elle avait failli dire. Son interlocutrice acheva calmement.
« Mort ? Nous sommes morts ? Est-ce que tu voulais dire ? Ceux qui sont liés à la roue ne sont pas morts de la façon normale. Puisqu'il nous faut attendre que la roue tisse pour nous une nouvelle vie, quel meilleur endroit que le monde des rêves ?»
Birgit eut un rire amer.
« Voilà que je parle comme une philosophe. Dans presque toutes les vies dont je me souviens, j'ai été une fille du peuple qui s'est unie à un arc. Une archère, oui, et rien de plus. Tu es l'héroïne d'une centaine de récits, et à Falm, j'ai vu ce que tes flèches pouvaient faire. Et les attaques des Seanchaniennes capables de canaliser te laissaient de marbre. Birgit, nous affrontons des sœurs de l'âge à noir, une dizaine, plus une rejetée, semble-t-il. Ton aide nous serait précieuse. »
L'héroïne eut soudain l'air gênée.
« Je ne peux rien pour vous, Ninevé. Tant que le corps ne m'aura pas rappelé, ou que la roue ne m'aura pas tissé une vie, il me sera impossible d'avoir une influence sur le monde réel. mais en admettant que je sois sur le point de renaître, tu te trouverais face à un bébé qui vagit dans les bras de sa mère. À Falm, le corps de Valère nous a appelés. Nous n'étions pas là en chair et en os comme toi. Voilà pourquoi le pouvoir était impuissant contre nous. Ici, tout est partie intégrante du rêve, et un tissage peut m'abattre aussi facilement qu'il te tuerait. Plus facilement même. Je te l'ai dit, je suis une archère, une guerrière de fortune, rien de plus.
La natte sophistiquée de Birgit oscilla quand elle secoua la tête.
Je ne comprends pas pourquoi je te révèle tout ça. En fait, je ne devrais pas t'adresser la parole. Pourquoi ? Tu m'as déjà parlé. Et Egwene pense t'avoir vu. C'était toi, pas vrai ?
Nineveh se rembrunit soudain.
Comment connais-tu mon nom ? Serais-tu omnisciente ? Je connais ce que j'entends et ce que je vois. Je vous ai surveillé et écouté, toi, les deux autres femmes et le jeune homme au loup. Selon les préceptes, il nous est interdit de parler à ceux qui savent qu'ils sont dans Tel Aranriod. Mais le mal rôde dans le monde des rêves comme dans l'univers des vivants. Tu combats ce mal, et pour cela tu m'as attiré. Même si j'avais conscience de ne pas pouvoir faire grand-chose, j'ai eu envie de t'aider. Mais c'est impossible. Parce que ça viole les préceptes, des codes de comportement que j'ai respectés, tandis que la roue faisait une infinité de tours. Dans mes plus vieux et plus vagues souvenirs, je sais que j'ai déjà vécu 100 fois, ou peut-être 1000. M'adresser à toi viole des préceptes aussi contraignants qu'une loi.
« C'est exact !»
lança une voix masculine. Nineveh sursauta et faillit frapper avec le pouvoir. La peau mate, bâtie en force, l'homme qui venait d'apparaître et qui avançait vers Birgit portait 2 épées croisées dans le dos. Grâce à ce qu'elle savait sur l'héroïne blonde, Nineveh reconnut Gaïdal Kane. Dans ce contexte très particulier, les 2 épées faisaient un indice qui ne trompait pas. Mais alors que Birgit était très belle, comme dans les récits, Kane aurait aisément pu concourir pour le titre d'homme le plus hideux du monde. Le visage large et plat, le nez bien trop gros et la bouche beaucoup trop large. Birgit lui sourit pourtant tendrement et lui caressa la joue. Bizarrement, des deux, c'était lui le plus petit. Mais avec sa musculature de colosse et la puissance qui émanait de tous ses gestes, il réussissait à passer pour plus grand qu'il l'était.
« Nous avons presque toujours été liés, »
dit Birgit à Nineveh, mais sans détourner le regard du héros.
« En principe, il naît avant moi. Du coup, quand je ne le trouve plus, je sais que le moment de renaître approche pour moi. Quand nous nous rencontrons dans une nouvelle vie, il m'arrive très souvent de le haïr dès le premier regard. Mais nous finissons presque toujours par nous aimer et nous marier. Une histoire simple, mais dont nous avons tissé un bon millier de variations. »
Ignorant Nineveh comme s'il n'existait pas, Kane grogna.
Les préceptes sont là pour une excellente raison, Birgit. Quand on ne les respecte pas, il n'en sort jamais rien de bon.
Kane avait une voix rauque et dure, pas du tout celle que les légendes lui prêtaient.
Je suis peut-être incapable de rester les bras ballants pendant que le mal sévit,
répondit l'archère blonde.
À moins que j'aie une envie irrésistible de revivre. Il y a longtemps que nous ne nous sommes plus réincarnés, Gaïdal. Les ténèbres se lèvent de nouveau et nous devons les combattre. C'est pour ça que nous sommes liés à la roue.
Quand le corps nous appellera, nous combattrons. Si la roue nous tisse de nouvelles vies, nous combattrons. En attendant, nous ne ferons rien.
Kane foudroya l'archère du regard.
As-tu oublié de quoi t'a menacé Mogedienne lorsque tu t'es rangé du côté de Loustérine ? Je l'ai vue, Birgit. Elle saura que tu es ici.
L'héroïne se tourna vers Nineveh.
Je vous aiderai de mon mieux, mais ne vous attendez pas à des miracles. Tel Aranriod est mon unique univers, et j'y ai moins de pouvoir que toi, Nineveh.
L'ancienne sage-dame scia. Alors qu'elle ne l'avait pas vue bouger, Kane était désormais à 2 pas d'elle et il passait une pierre à aiguiser sur le fil d'une de ses épées. À ses yeux, Birgit parlait à un fantôme et la conversation ne l'intéressait pas.
« Que peux-tu me dire sur Mogedienne, Birgit ? Pour l'affronter, j'ai besoin d'informations. »
Toujours appuyée à son arc, Birgit plissa pensivement le front.
« L'affronter est difficile, pas seulement parce que c'est une rejetée. Elle se cache et ne prend jamais de risques. Se déplaçant dans les ombres, elle est toujours là pour attaquer les points faibles d'un adversaire. » Quand elle redoute de perdre, elle refuse le combat. Elle n'est pas du genre à lutter jusqu'à son dernier souffle, même si c'est sa seule chance de vaincre. Un si petit pourcentage de réussite n'est pas assez pour elle. Pour autant, ne la sous-estime surtout pas. C'est un serpent tapi dans les hautes herbes et qui attend le meilleur moment pour mordre. La compassion, elle ne connaît pas. Alors méfie-toi d'elle, et surtout ici. L'Anfear aime prétendre que Tel Aranriod est son royaume, mais Mogedienne peut y faire bien plus de choses qu'elle. Dans le monde de la chair, cependant, Mogedienne est moins puissante que l'Anfear, et elle ne prendrait pas le risque de la défier.
La peur et la colère, qui lui permettait de rester lié au pouvoir, s'affrontant en elle, Nineveh frissonna. Mogedienne, Lanfear. Birgit parlait des rejetés comme elle aurait évoqué le temps qu'il faisait.
Birgit, de quoi Mogedienne t'a-t-elle menacée? Elle savait ce que j'étais, même si je l'ignorais. Comment? Je n'ai pas compris.
Jetant un coup d'œil à Cain, toujours occupé à aiguiser sa lame, l'héroïne baissa la voix.
Elle m'a menacé de me faire pleurer tant que la roue tournerait. Et elle semblait sûre d'évoquer un événement qui se produirait un jour ou l'autre. Pourtant, tu voudrais nous aider? Oui, mais souviens-toi. Il ne faut pas attendre un miracle de ma part.
Birgit regarda de nouveau Cain.
Nous nous reverrons, Nineveh, si tu es assez prudente pour survivre.
Nineveh secoua la tête. Encore la prudence? Tout le monde lui conseillait la même chose. Pour l'instant, elle se trouvait avec une héroïne désireuse de l'aider mais impuissante. Et une rejetée rôdait à Tanchico. Au souvenir de ce que Mogedienne lui avait fait, Nineveh sentit sa colère monter et le pouvoir se mit à battre en elle comme un cœur fier et indomptable. En un clin d'œil, elle se retrouva dans la salle d'exposition, espérant presque que la femme vêtue de brume se remontrerait. Mais il n'y avait personne à part elle. Et le pouvoir qui rugissait en elle presque aussi fort que sa fureur. Mogedienne et les sœurs noires risquaient de la repérer plus facilement si elle restait unie au Saïdar. Pourtant, elle ne s'en sépara pas, si enragée qu'elle aurait voulu avoir ses ennemis en face d'elle, histoire de les écrabouiller. Selon toute probabilité, Temeil devait être encore dans le monde des rêves. En retournant dans la chambre de la Panarche, Nineveh pouvait lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Oui, et prévenir toutes les autres sœurs noires. De l'idiotie pure et simple. Qu'est-ce qui avait fait sourire Mogedienne? Avançant jusqu'à la vitrine, Nineveh regarda à l'intérieur. 6 figurines mal assorties étaient disposées en cercle sur une étagère. Par exemple, quel rapport pouvait-il y avoir entre une femme nue d'environ un pied de haut qui dansait en équilibre sur les orteils d'un seul pied et un berger beaucoup plus petit qui jouait de la cornemuse, son bâton sur l'épaule et un mouton à ses pieds? Nineveh n'eut cependant pas la moindre hésitation sur ce qui avait attiré la rejetée. Au centre du cercle de figurines, sur un présentoir en bois laqué, reposait un cercle grand comme la main d'un homme. Une ligne sinueuse le divisait, une moitié blanche comme la neige et l'autre plus noire que la nuit. Un artefact en Quendiyar. Nineveh en avait déjà vu un, et il n'en existait que 7 dans le monde. Un des sceaux de la prison du Ténébreux. En d'autres termes, un focus pour l'un des verrous qui le retenait dans le mont Chagalghoul, le gardant éloigné du monde. Une découverte presque aussi importante que l'arme mystérieuse capable de nuire à Rand. Et un trésor qu'il était hors de question de laisser entre les mains des sœurs noires. Soudain, Nineveh s'aperçut que son image se reflétait dans la vitrine. Vêtue d'une robe de soie verte qui révélait toutes ses courbes, elle portait de nouveau de longues tresses piquées de perles. Et de grands yeux marrons mettaient en valeur sa bouche en cœur à rien boudeuse. Bien entendu, sur le reflet, l'aura du Saïdar n'apparaissait pas. Alors qu'elle était déguisée au point de ne pas se reconnaître elle-même, elle transportait l'équivalent d'une pancarte où les mots Aes Sedai étaient écrits en lettres majuscules.
« Je sais être prudente »,
marmonna-t-elle. Pourtant, elle ne se sépara pas tout de suite du pouvoir. Quand il coulait en elle, telle la vie pétillant jusque dans ses membres, elle éprouvait plus de plaisir que jamais dans sa vie, ou plus exactement, la somme de tous les moments de plaisir qu'elle avait connus. Au bout d'un moment, la conscience d'être ridicule entama sa colère pour qu'elle puisse se détacher de la source authentique. Ou au contraire, pour qu'elle soit incapable de continuer à s'y accrocher. Quelle que soit la raison du phénomène, il ne facilita pas ses recherches. Pourtant, l'objet de sa quête devait être quelque part dans cette grande salle. Cessant de contempler le squelette de ce qui semblait être un lézard de 30 pieds de long pourvu de crocs, l'ancienne sage-dame approcha d'une série de vitrines. Le besoin. Une menace contre le dragon réincarné. Rand, le besoin.
Un glissement.
Debout à l'intérieur de la zone interdite délimitée par une corde blanche, Nineveh se retrouva devant un piédestal en pierre blanche dont le socle touchait presque sa robe. Au premier coup d'œil, les objets qui reposaient dessus ne semblaient guère dangereux. Un collier et 2 bracelets articulés en métal noir. Mais elle ne pourrait jamais être plus près de ce qu'elle cherchait.
À moins d'être assise dessus,
songea-t-elle, amère. Elle tendit la main pour toucher les bijoux.
Douleur, souffrance, torture!
Et la retira en poussant un petit cri, un torrent d'émotions brutes déferlant encore dans sa tête. À cet instant, ses derniers doutes se dissipèrent. C'était bien ce que cherchait la Janoire. Et si ses bijoux se trouvaient sur un piédestal ici, dans Tel Aranriod, ils y étaient également dans le monde réel. En d'autres termes, elles avaient battu les sœurs noires sur le fil. Se retournant, Ninévée estima la position de la vitrine qui contenait le seau par rapport au piédestal de pierre blanche. Quand elle souriait, Mogadienne avait les yeux braqués sur ce point précis de la salle. À travers la vitrine, elle regardait le collier et les deux bracelets. Donc, elle savait. Mais, autour de Ninévée, les contours de la salle se brouillèrent, puis disparurent.
« Réveille-toi, Ninévée !»
marmonna Elaine en étouffant un bâillement.
« Ça doit faire une heure et je meurs de sommeil. »
Elle secoua de nouveau son amie.
« Allons, réveille-toi, ou je verrai si tu aimes qu'on te plonge la tête dans un seau d'eau. »
Ninévée ouvrit les yeux et chercha le regard de son amie.
« Si elle sait ce que c'est, pourquoi ne l'aura-t-elle pas donné? Et si elles savent qui elle est, pourquoi fait-elle ses recherches dans le monde des rêves? Se cache-t-elle aussi? Tu veux bien me dire de quoi tu parles ?»
Ninévée s'assit dans le lit, faisant osciller ses tresses, et tira sur sa combinaison de soie.
« Attends, je vais tout te raconter. »
Elaine resta bouche bée tout au long du récit de Ninévée sur son rendez-vous avec Egwene et ses prolongements inattendus. Cherchée avec le besoin, Mogadienne, Birgit et Geidalkane. Les bracelets et le collier en métal noir. Asmodéane dans le désert des Aiel. Un seau de la prison du Ténébreux au palais de la Panarche. Dépassée, Elaine se laissa glisser contre le flanc du matelas longtemps avant que Ninévée évoque Temeil, la Panarche, et son changement d'apparence qui l'avait conduite à se faire passer pour Endra. Si l'ancienne sage-dame n'avait pas été si sérieuse, la fille héritière aurait cru écouter une des fabuleuses histoires de Tom. Assise en tailleur, les mains sur les genoux, Egeanine paraissait ne pas en croire ses oreilles. Sans piper mot, Elaine espéra que Ninévée n'allait pas lui faire toute une histoire parce qu'elle avait libéré les poignets de la Seanchanienne. Mogadienne. C'était ça le plus terrifiant. Une rejetée à Tanchico. Une rejetée qui était venue à l'auberge, qui les avait placés sous sa volonté et forcés à tout lui dire. Elaine ne gardait aucun souvenir de cet épisode, dont la seule évocation suffisait à lui donner la nausée.
« Pensez qu'elle a pu simplement entrer et nous manipuler comme des marionnettes. »
« Je ne sais pas si Mogadienne cherche à passer inaperçue aux yeux de Liandrine et de ses complices, mais ça correspond à ce que Birgit t'a dit sur elle. »«
Birgit, par la lumière. Birgit nous donnant son avis. »«
Quoique mijote Mogadienne, »
dit Ninévée.
« J'ai l'intention de ne pas la laisser faire. »
Elle se laissa retomber contre la tête de lys sculptée de fleurs.
« De toute façon, nous devons récupérer le sceau et les trois bijoux noirs. Un collier et deux bracelets dangereux pour Rand ? Désolé, mais ça ne me convainc pas. Tu crois que ce sont des Terangreal ? Pour commencer, à quoi ressemble-t-il ? À un collier et deux bracelets. Deux bracelets en métal noir et un collier articulé. Un collier. »
Ninévée regarda Egeanine, vers laquelle Elaine avait déjà tourné la tête. Très calme, la Seanchanienne s'assit sur les talons.
« Je n'ai jamais entendu parler d'un Adam conçu pour un homme. Ni d'un Adam noir, d'ailleurs. Personne n'essaie de contrôler un homme capable de canaliser. Pourtant, c'est la fonction de ses bijoux. »
Soupira Elaine.
« Et j'espérais tant qu'une telle chose n'existait pas. »
Au moins, Ninévée avait trouvé l'arme mystérieuse avant leurs ennemis. Avec un peu de chance, elle n'aurait pas l'occasion de l'utiliser sur Rand. Ninévée écarquilla les yeux en voyant qu'Egeanine avait les mains libres, mais elle ne dit rien.
« Mogadienne doit être la seule à savoir, sinon ça n'aurait aucun sens. Si nous trouvons un moyen d'entrer au palais, nous pourrons subtiliser le sceau et le... qu'importe son nom. Et si nous libérons Amaterra, Liandrine et ses complices risquent d'avoir de gros ennuis avec la Légion, la garde municipale et peut-être même les Capes Blanches. » Un peu trop d'ennemis pour qu'elle s'en tire sans perdre de plumes, même avec le pouvoir. Mais comment entrer au palais ? J'ai eu quelques idées,
dit Elaine.
Bien sûr, je crains que nos trois gardes du corps émettent des objections. Je me chargerai d'eux,
siffla Ninévée.
Ce sont...
Il y eut du bruit dans le couloir, puis un cri d'homme retentit. Tom montait la garde là-dehors, et ce silence déjà revenu. Elaine bondit vers la porte, l'aura du Saïdar l'enveloppant déjà. Ninévée la suivit et Egeanine aussi. Tom était en train de se relever, une main plaquée sur la tête. Juilin et Domon, bâton et gourdin au poing, étaient penchés sur un type aux cheveux clairs gisant face contre terre. Elaine voulut aider le trouvère, qui lui sourit, mais déclina toute offre d'assistance.
« Je vais très bien, mon enfant. »«
Très bien ? Avec une bosse qui poussait à vue d'œil sur sa tête ?»«
Ce type descendait le couloir et soudain, il m'a flanqué un coup sur le crâne. » Pour me piquer ma bourse, je suppose.
Le train-train quotidien, quoi. Un coup sur la tête, mais il n'y avait aucun problème.
Il aurait réussi,
dit Juilin.
Si je n'étais pas venu relever Tom, au cas où il aurait été fatigué. Si je ne t'avais pas dit d'aller le voir,
marmonna Domon. Pour une fois, l'antagonisme des deux hommes semblait moins explosif. Elaine ne tarda pas à comprendre pourquoi. Ninevée et Egeanin étaient toutes les deux sorties en combinaison. Juilin les couvait d'un regard approbateur qui aurait créé un incident si Rendra avait été présente. Au moins, il s'efforçait de n'être pas trop lourd. En revanche, Domon ne cachait pas qu'Egeanin était à son goût, et il la reluquait d'une manière vraiment choquante. Les deux autres femmes comprirent elles aussi très vite ce qui se passait, mais leurs réactions furent très différentes. Ninevée foudroya le pisteur de voleurs du regard, puis elle rentra dans la chambre, se cacha contre le mur et ne laissa plus émerger dans le couloir que le bout de son nez quelque peu empourpré. Alors que sa combinaison était bien moins révélatrice que celle de l'ancienne sage-dame, la courageuse Egeanin, une prisonnière imperturbable qui savait se battre presque aussi bien qu'un champion, poussa un cri d'horreur et plongea littéralement vers la sécurité et l'intimité de la chambre. Des portes s'ouvrirent dans le couloir et des têtes en jaillirent. Juste le temps de voir un homme inconscient sur le sol. Avec un bel ensemble, tous les battants se refermèrent et des bruits caractéristiques, quelques instants plus tard, indiquèrent que les clients se barricadaient en tirant leur lit ou une armoire devant leur porte. Egeanin finit par montrer elle aussi le bout de son nez, du côté opposé de l'encadrement de porte, soit en face de Ninevée. Elaine eut quelque peine à comprendre ce qui se passait. La Séan Chanienne était en sous-vêtements, certes, mais il la couvrait tout autant qu'une robe normale. Cela dit, Juilin et Domon n'avaient aucun droit de se rincer l'œil, et la fille héritière leur coula un regard qui aurait dû les remettre à leur place. Malheureusement, trop occupé à glousser bêtement en se tapotant la lèvre supérieure, le capitaine ne s'en aperçut pas. Juilin, lui, soupira comme les hommes aimaient à le faire quand ils se considéraient comme injustement brimés. Histoire de se donner une contenance, il se pencha pour retourner le type blond sur le dos. Un jeune homme mince et plutôt agréable à regarder.
« Je le connais !»
s'écria Juilin.
« C'est le ruffian qui a tenté de me détrousser. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Mais je me méfie des coïncidences. Comme si on me disait que le dragon réincarné est en ville. »
Elaine et Ninevée échangèrent un regard perplexe. L'inconnu ne pouvait pas être au service de Liandrin. La Jeanne Noire n'aurait pas engagé un homme pour fouiner dans les couloirs. Et pas davantage des bandits des rues pour attaquer des Aes Sedai. Elaine interrogea Egeanin du regard. Ninevée aussi, mais avec plus d'insistance.
« C'est un Séan Chanien, »
souffla la prisonnière.
« Venu te libérer ?»
demanda sans aménité l'ancienne sage-dame.
« Je suis sûr qu'il me cherchait, mais pas pour me secourir. S'il sait, voire s'il soupçonne que j'ai laissé partir Bétamine, il doit avoir eu l'intention de me... parler. »
« Et sûrement pas gentiment du tout, » supposa Elaine. « A raison, comme la suite le lui prouva. »«
Le mieux serait de lui couper la gorge, »
continua Egeanin.
« S'il pense que vous êtes mes amis, ou s'il découvre que vous êtes des Aes Sedai, il risque de vous faire des ennuis. »
Domon ne cacha pas son indignation, et Juilin en resta bouche bée. Tom eut en revanche un hochement de tête approbateur des plus perturbants.
« Nous ne sommes pas ici pour égorger des Séan Chaniens, »
dit Ninevée, même si elle ne semblait pas exclure que ce point précis puisse changer.
« Bale, Juilin, transportez-le dans la ruelle, derrière l'auberge. En se réveillant, il pourra s'estimer heureux qu'il lui reste ses chaussettes. Tom, va voir Rendra, et dis-lui qu'il nous faut une infusion bien forte dans la chambre des floraisons fanées. Demande-lui si elle a de l'écorce de saule ou de la sème pour ta tête. »
Les trois hommes écarquillèrent les yeux.
« Allez, exécution ! Nous avons des plans à mettre au point. »
Ninevée laissa à peine le temps à Elaine d'entrer avant de refermer la porte. Puis elle commença à s'habiller, et Egeanin se précipita vers sa robe comme si les trois hommes la regardaient toujours.
« Le mieux, c'est de les ignorer, Egeanin, »
dit Elaine. Conseiller une femme plus âgée que Ninevée paraissait bizarre, mais à l'évidence, la Séan Chanienne, pourtant très compétente dans bien des matières, ne connaissait rien aux hommes.
« Sinon, ça les encourage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Cela dit, tu étais très décente. »
La tête d'Egeanin émergea du col de sa robe.
« Décente ? Je ne suis pas une fille de salle, ni une danseuse de Shea. »
Dubitative, la Séan Chanienne ajouta.
« Il est plutôt pas mal, cependant. Je n'avais jamais pensé à lui sous cet angle, mais... »
Se demandant ce que pouvait bien être une danseuse de Shea, Elaine alla aider Egeanin à boutonner sa robe.
« Si tu t'es escompté fleurette par Juilin, Rendra aura un mot ou deux à te dire. Juilin ? Le pisteur de voleurs ? Non, je parlais de Bale Domon. Un bien bel homme. Mais un contrebandier, hélas. Hors la loi. »
Les goûts et les couleurs, Elaine le savait, ne se discutaient pas. Ninevée était bien folle de l'âne, pourtant aussi expressif qu'un rocher et plus intimidant qu'une montagne. Mais Bale Domon ? Presque aussi large que haut, les traits aussi fins que ceux d'un ogier.
« Tu jacasses comme Rendra, Elaine !»
grogna Ninevée. Les mains dans le dos, elle luttait pour boutonner sa robe.
« Si tu as fini de déblatérer sur les hommes, pourrais-tu nous épargner la nouvelle couturière absolument divine que tu viens de découvrir ?
Nous avons du pain sur la planche. Si nous attendons le retour des hommes, ils vont vouloir prendre les choses en main. Et je ne suis pas d'humeur à perdre du temps avec eux. Tu as terminé avec la Sanchanienne ? Je ne cracherai pas sur un peu d'aide.
Le dernier bouton des guéanines fermé, Elaine approcha de Ninevé avec une froide détermination. Non, elle ne jacassait pas sur les hommes et les habits. En tout cas, bien moins que Rendra. Écartant ses tresses, Ninevé jeta un regard noir à son amie avant qu'elle entreprenne, sans trop de douceur, de lui boutonner sa robe. Bien entendu, la triple rangée de boutons de nacre dans le creux du dos n'était pas un ornement, mais une austère nécessité. Maîtresse Almehara se laissait conseiller sur les corsages à la mode par Rendra, et après, Maîtresse Almehara accusait les autres de ne penser qu'au chiffon. Parce que Maîtresse Almehara, nul n'en doutait, avait des préoccupations bien plus nobles.
« J'ai réfléchi, Ninevé, et je crois avoir trouvé un moyen d'entrer au palais. Nous serons presque invisibles. »
En écoutant Elaine, Ninevé s'adoucit un peu. Elle aussi avait imaginé un plan. Quand Egeanine osa quelques suggestions, l'ancienne sage-dame fit la moue, mais elle ne s'autorisa pas assez de mauvaise foi pour refuser des conseils raisonnables. Quand elles furent enfin prêtes à gagner la chambre des floraisons fanées, Elaine et Ninevé tenaient leur plan, et il n'était pas question que les hommes y changent une virgule. Mogedienne, la Janoire ou quiconque tirait les ficelles au palais de la Panarche n'aurait qu'à bien se tenir, car les choses n'allaient pas tarder à changer.